Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutus.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos sorties massacrantes dans l'univers toujours plus étrange de la Sharksploitation. Et en ces temps de confinement, il est toujours agréable de replonger dans les profondeurs marines. Car quoi qu'on en dise, nos amis requins font toujours moins de victimes que cette cochonnerie qui nous tient en confinement. Alors oui, j'ai bien conscience que les épisodes du podcast s'espacent un petit peu ces derniers temps, mais que voulez-vous, j'étais très occupé, il fallait que j'aille ramasser des fraises selon les consignes du gouvernement. En tout cas, nous revenons donc vers nos requins favoris avec deux films cette fois-ci. Je vous rappelle quand même rapidement le principe de l'émission, hein. Nous avons donc pris deux films de requins dans la cohorte des films du genre, et nous allons les analyser avec tout le sérieux qui s'impose pour déterminer les capacités squalographiques des films, c'est-à-dire les capacités squalesques et cinématographiques. En l'espèce, l'originalité, l'histoire, les personnages, l'ambiance, la réalisation, la qualité des requins. À chaque fois, nous établirons s'ils sont non acquis, insuffisamment acquis, en cours d'acquisition ou acquis, hein, de 0 à 3 points, ce qui nous donne un total de 18, auquel nous rajouterons 2 points d'appréciation personnelle pour arriver à un total de 20, ce qui nous permettra ensuite de reclasser les films dans une des 5 catégories suivantes, au-dessus de 16 incontournables, au-dessus de 12 bons films, entre 8 et 12 routiniers, entre 4 et 8 c'est nul, et en dessous de 4 c'est à fuir. Alors, les films que nous avons traités cette semaine sont éloignés en apparence, mais finalement assez proches dans le résultat. Il s'agit d'Open Waters 3, Les Abîmes de la Terreur, un film américano-australien de 2017 de Gerald Racionato, et de Furia Assassina, un film de 1990 de René Cardona Jr. Alors, prêt à jeter à l'eau ?
L'océan est magnifique, et tout le monde doit pouvoir en profiter. Les attaques de requins ne provoquent la mort que d'une seule personne sur 900 millions.
Open Waters 3, oh non, c'est un found footage, oh j'aime pas ça, ça va être tout pourri. Non, je veux dire, les trois quarts du temps, c'est le prétexte pour filmer avec le cul en faisant jamais le point et en faisant trembler la caméra, tu parles d'un cadeau. Non, franchement, depuis Blair Witch, c'est le cancer du film d'épouvante, hein. Ils ont vu, ah, on peut tourner pour un petit budget, les mecs ils sont pas trop regardants, ça va faire cinéma vérité. Oui, bien sûr. À part 2-3, genre Cloverfield, Trollhunter ou Wreck, qui ont réussi à faire quelque chose avec, hein. Moi, j'en ai soupé de ces péloches moisies où on voit jamais ce qui se passe avec des gens qui viennent confesser qu'ils sont morts de trouille devant la caméra avant de se faire choper en jumpscare mal cadré par un truc qui sort des ténèbres. Oh, la vache, mon petit père, Open Water 3, t'arrives sérieusement en retard, hein, parce qu'en 2015, le procédé, il est déjà salement éventé, et ça a passé la date de péremption. Ah oui, tu vas me dire, oui, mais le premier Open Water, il était filmé façon semi-amateur. Oui, mais là, il y avait un point de vue, il y avait la volonté de resserrer sur des personnages intéressants, de donner une impression de vérité, pas juste de filmer n'importe comment. Et là, Gerald Racionato, avec ton caméscope premier prix acheté chez Jiffy, tu fais quoi ? Bah n'importe quoi, justement. Et c'est ça que je te reproche. Enfin. Troisième mouture de la saga Open Waters. Alors je vous rappelle qu'on avait vu ensemble le premier film Open Waters, qui est d'ailleurs premier ex aequo dans notre classement, avec 16,5, et qui est un des rares incontournables, et qui jouait à fond la carte du minimalisme et de l'ambiance. Je vous renvoie à l'épisode 19 si vous voulez un petit peu réécouter ce que j'ai dit sur ce film. Alors donc le premier film datait de 2004 et donc 2 ans plus tard, on a eu en 2006 un Open Waters 2, fort justement nommé à la dérive, tant on s'ennuyait ferme devant ce film où une poignée d'hystériques avait oublié de remonter sur l'échelle de coupé de leur bateau et se retrouvait perdu en pleine mer. Bon, il n'y avait pas de requin. Petite particularité d'ailleurs, le film était allemand, pourquoi ? Bon, ils avaient dû racheter les droits. Donc 9 ans plus tard, nous refaire une troisième mouture, pourquoi pas, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant à rajouter? Surtout qu'entre-temps, bah, on a quand même eu The Reef, on a quand même eu 47 Meters Down, d'autres films qui nous ont entraînés dans la dérive au milieu des squales. Va falloir quand même un petit peu s'accrocher pour apporter quelque chose de frais. Et donc là, notre réalisateur, hein, Gérald Racionato, mise plutôt sur les faits... On va la faire donc à la fin de footage, on a découvert une caméra dans les récifs, mon dieu, que s'est-il passé? Et puis, histoire de la jouer un peu documentaire ou mockumentaire, on va aller interroger les témoins des victimes. Donc, cela nous amène à nous intéresser formellement à 3 jeunes américains qui veulent participer à une émission de télé-réalité style Le Grand Frisson. Alors tiens, je fais une parenthèse là tout de suite, hein. Je l'ai déjà dit pour d'autres productions, mais quand tu fais un film, où tu vas suivre des personnages filmés sous les trous de nez 24h sur 24, ben, il faut au minimum choisir des personnages qu'on n'a pas envie de voir buter au bout de 2 secondes, hein, parce que ça c'est quand même 3 beaux gosses ou bombasses échappés d'un magazine de fitness, et ce serait donc sympa de les rendre un minimum crédibles ou attachants, hein. Je veux dire d'essayer un tout petit peu de leur créer une personnalité, de leur créer quelque chose auquel tu vas pouvoir t'attacher. Parce que là, on a clairement un trio de connards à baffer qui surjouent tellement l'enthousiasme devant la caméra, même quand ils traversent une rue.
Je filme.
D'accord. Alors voici notre petit jeu.
Oh non !
Nous vous présentons le concours extrême qui cherche des candidats débiles qui aiment les sensations fortes. Je pense que vous ferez l'affaire.
Je confirme.
Oh, regardez ça. 100 000 dollars.
C'est ce que je t'avais dit.
Non, sérieusement?
Ouais, on va devenir riche en s'amusant. On va commencer par enregistrer une vidéo d'audition de 7 minutes
Super.
Pour expliquer pourquoi on forme une bonne équipe et leur montrer qu'on est les candidats parfaits. Ensuite, je ferai le montage et on le mettra en ligne. Aussi simple que ça, je m'occupe de tout.
Cool.
Allez, petit frère, faut faire des push-ups. Plus vite.
Qu'est-ce que tu fous?
Allez, debout. Hey, salut, ça va? Je m'appelle Josh.
Moi, c'est Jeff.
Et moi, c'est Megan. Et on vient de...
Laguna Beach, en Californie.
États-Unis d'Amérique.
États-Unis. Allez, on
y
va.
On garde cette prise, non? Oh.
Il y a une espèce de gros bras teubé avec sa fiancée et son frère assez malaisant. Côté caractérisation, ben, on rajoute un bout d'adultère entre donc, la fiancée du gros bras et le frère. Alors que celui-ci s'apprête d'ailleurs à faire sa demande officielle. Ce qui nous amène une des rares scènes un petit peu réussies d'ailleurs du film, où on voit tout d'abord notre gros bras qui pose la caméra, montre la jolie bague qu'il a prévu d'offrir à sa fiancée, s'absente 5 minutes, et puis ensuite la dite fiancée vient batifoler avec le frère, puis repart sans savoir que la caméra tournait, et notre gros bras revient pour regarder les rushs en question. Le frère arrive, s'aperçoit de ce qu'il y a sur la caméra et tente tout pour le distraire. C'est un petit peu la scène la plus réussie du film, je dirais. Elle est au bout de 20 minutes de bavardage et de découverte des joies de l'Australie, parce que c'est par là que notre trio part pour découvrir les joies de la plongée au milieu des requins. Oui, parce que pour se faire sélectionner dans une télé-réalité où l'important c'est de montrer qu'on est quelqu'un de super courageux, le mieux c'est quand même de faire une attraction touristique au milieu d'autres touristes. Puisque la nage au milieu des requins, ici, c'est pas une aventure personnelle, non, c'est juste une attraction touristique. Alors, problème au moment où ils barbotent dans leur cage, hein, au milieu des requins, une vague scélérate jaillit de nulle part et vient couler le navire, les laissant tous les 3 seuls à la dérive sur l'océan, seuls survivants à la merci des requins, de la mer déchaînée et de leur psychodrame personnel au fur et à mesure que les masques tombent et que les révélations sur les relations entre les 2 frères et la donzelle ne cesse d'arriver sur le devant de la scène. Donc on le voit à ce niveau de recyclage, on est dans le développement durable. Le film y bouffe à tous les râteliers des prods du même style, hein, depuis The Reef, 47 Meters Down et ses cages à requins. Hein. Le tout pour un résultat assez vite ennuyeux, hein, parce que on a déjà une bonne grosse première demi-heure semi-touristique où on suit nos héros à la fête foraine, découvrant l'Australie, s'émerveillant devant des baleines. Et puis ensuite, lorsque la catastrophe arrive et qu'il se retrouve à flotter, perdu en pleine mer, eh ben, on se retrouve à suivre les crises d'hystérie et les atermoiements de personnages qui nous rejouent des choses qu'on a déjà vues dans pas mal d'autres films, mais bien mieux jouées. Et puis, soyons sincères, il y a le problème de cette caméra portée, il y a le problème de vouloir tout faire avec une caméra tenue par les personnages. Et non seulement, bah, comme dans la plupart des films found footage, il va falloir trouver toutes les justifications les plus tordues pour que, alors qu'on est perdu en pleine mer, qu'on a du mal à nager, qu'on est attaqué par des requins, on continue à garder la caméra à bout de bras et à filmer ce qui se passe. Mais on a aussi le problème, toujours évident dans ce genre de production, du fait que quand on a tout filmé avec une petite caméra, avec une résolution bien dégueulasse, des filtres verts pendant la nuit, eh bien, plutôt que de faire des jolies scènes d'action avec les requins, on se contente d'agiter très très fort la caméra dès qu'il y a quelque chose qui passe. Or, il y a une ou deux attaques qui sont un peu réussies, qui arrivent à nous prendre par surprise. C'est quand même un score bien maigre par rapport aux longues plages d'ennui que ce film, qui date quand même de 2017, traîne tout au long de sa production. Et puis, si au moins les personnages apportaient quelque chose, apportaient un brin de vérité, mais non, ils sont absolument hystériques, hein, je mettrais même pas ça sur le compte des acteurs, mais plus de leur caractérisation. La fille du groupe, notamment, est pas gâtée par son rôle. Hein. Un rôle d'hystérique continuel, qui en plus réussit à agir comme une conne parfaite, en mettant le feu au seul canot de sauvetage qu'ils ont réussi à trouver, avec une fusée éclairante de secours.
Oh, qu'est-ce que tu fous avec ça?
Faut qu'on intervienne, Josh, parce qu'elle se réveille pas et... Je sais pas quoi faire.
On va faire ce qu'on peut, mais n'utilise pas de fusée de détresse.
Pourquoi? Quelqu'un la verra et viendra nous
Personne
sauver.
Personne va la voir. Souviens-toi de la
oui,
première.
Oui, mais si cette fois il la voit, il n'y a
marché.
Pas de raison.
Megan, non. Josh, arrête-la.
Non.
Megan, cette fille.
Quoi?
Je pense à toi et à Jeff et tu vas nous foutre dans la merde en faisant ça.
Et si ça pouvait tous nous sauver?
Non, c'est
je
faux.
Je te dis que si.
Allez, t'as pas les idées.
Megan, regarde où tu vas.
Arrête.
Donne ça.
Megan.
Non. Putain. Jette la dans du canon. Vas-y, jette-la. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce que je peux?
À ce niveau global de bêtises, tu te dis que pour la survie de l'espèce humaine, il vaut mieux effectivement qu'ils se fassent tous bouffer avant de pouvoir se reproduire. Et donc au final, on est face à un projet dont on se demande vraiment pourquoi il a été mis en place. C'est une licence qui est déjà complètement épuisée depuis 2006, refaire un film en 2017, quel est l'intérêt? Alors éventuellement, du point de vue du réalisateur, donc Gérald Racionato, c'est un peu l'occasion de faire ses preuves puisque c'est son premier... et pour l'instant unique, long métrage. Il a fait quelques courts-métrages en Australie, hein, le pays dont il est originaire, et avec cette carte de visite-là, à mon avis, on va pas lui confier tout de suite une méga-production. Même si, d'après IMDb, il sera en train de bosser sur un film de dinosaures, Klaw, dont on sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il aurait dû sortir en février et qu'il est toujours pas sorti. Encourageant. On va dire que c'est de la faute du virus. Pour la musique, on a affaire à un mélange de pas mal de chansons, voire certaines qui sont carrément des compositions libres de droit de Kevin MacLeod, et pour le reste, quelques nappes sonores d'enrobage des Newton Brothers, un duo de compositeurs-arrangeurs qui commence tout doucement à se faire sa place dans le petit monde hollywoodien, puisqu'ils ont été les responsables de la soundtrack du Dr. Sleep, qui est sorti dernièrement, et qui semble-t-il est une suite assez fréquentable à Shining. J'ai toujours pas vu, il faudra que je me penche dessus à l'occasion. Alors, ce qu'il livre, ce sont essentiellement quelques petites nappes d'ambiance, des moments au synthé assez convenus. Ils ont peu de place pour s'exprimer, puisque la plupart du film est globalement sans musique, ou avec quelques chansons en arrière-plan, pour capturer un petit peu le côté pris sur le vif d'un tournage au caméscope. Voilà. Pour le reste, j'ai pas grand-chose à dire de ce film. C'est exactement ce à quoi on est en droit de s'attendre d'un found footage à petit budget qui recycle beaucoup d'idées déjà vues et qui n'apporte pas grand-chose. À vrai dire, vous pouvez vous contenter de mater la bande-annonce sur Internet, vous aurez vu la quasi-totalité des scènes choc, le reste étant essentiellement occupé par du remplissage et par des acteurs qui font ce qu'ils peuvent pour essayer de faire exister des personnages unidimensionnels, voire zéro-dimensionnels. Bref, c'est pas ce film-là qui va aller bousculer la hiérarchie de notre classement. Il est resté loin, loin, loin derrière son prédécesseur, qui était quand même, avec aussi peu de budget, d'une toute autre trempe. Dans ce film, il n'y a pas que la cage qui sombre.
Ça va, ça va. De l'eau, compris ?
du sang partout.
Oh merde.
Appuie sur la blessure pour refermer la plaie.
Je sais pas quoi faire.
Ouais, faut vérifier son pouls.
S'il te plaît. Réveille-toi.
C'est pas vrai. Appuie.
Il n'entend rien. On ferait mieux de partir.
Il faut que tu appuies sur la blessure pour éviter les branchements.
Non, laisse-la tranquille, ça va. Laisse-nous. Tranquille.
Laisse-nous t'aider.
Qu'est-ce que tu fous? Tu as foutu la paix. Elle est partante.
Il faut que tu évites l'hémorragie.
Il y a du sang partout.
Non, ça va, Megan, c'est que du sang.
Josh, tu vois quelque chose?
Un requin.
Alors, les capacités scolographiques d'Open Waters 3, les abîmes de la terreur, les abîmes de l'ennui auraient été un meilleur titre. L'originalité, déjà, c'est non acquis, hein, puisque c'est quand même le troisième opus d'une série un petit peu éventée et qui n'apporte pas grand-chose. C'est pas le rajout du fan footage qui va rendre ça plus palpitant, et même, je dirais que ça a un impact sur l'histoire qui est non acquis non plus. On sait évidemment tout ce qui va se passer, on voit ça sans qu'il y ait de véritables surprises, sans qu'il y ait de véritables twists. Les personnages sont détestables, donc ils sont non acquis eux aussi. Jouer au mieux, on va dire, comme des gros bonnets, au pire comme des hystériques. Ça va pas nous faciliter la vie pour apprécier tout ça. La réalisation, elle est insuffisamment acquise. Parce que, à part un ou deux plans qui nous prennent par surprise, la plupart du temps, à force d'avoir une réalisation au caméscope tremblotante avec filtre vert la nuit, on n'y voit rien, c'est pas terrible. C'est assez atroce à suivre. Et ce qui est le lot, de toute façon, de pas mal de found footage. L'ambiance est insuffisamment acquise, la fin arrive encore un petit peu à apporter un petit moment de tension, mais c'est quand même bien cher payé les 1h10 d'attente avant d'arriver à quelque chose qui nous réveille un peu, et encore qui nous réveille si on n'a pas déjà vu 25 autres films du même style avant. Enfin, les requins, c'est là où je serais plus indulgent là encore, j'irais jusqu'à en cours d'acquisition, parce que on les voit très peu, ce sont pour la plupart des vrais requins qui sont filmés en documentaire. Il y a peut-être quelques requins en images de synthèse, mais si effectivement ce sont des requins en images de synthèse qui passent notamment entre les nageurs, dû au fait qu'on les voit très très furtivement et avec la qualité déplorable de l'image filmée par un caméscope, ça passe plutôt pas mal. Et les quelques rares attaques sont assez efficaces. Voilà, c'est peut-être le point sur lequel je sauverai un peu le film. Parce que ça nous entraîne à 4, nous sommes sur un film qui est nul, parce que je rajouterai rien du tout en tant qu'appréciation personnelle, je me suis pas mal ennuyé devant ce film. On a là un film opportuniste, qui s'il n'avait pas eu la trademark Open Waters et le succès des deux premiers, ne serait jamais sorti chez nous, hein. Il est sorti furtivement en VOD, sur 2-3 chaînes de télé, en pay-per-view, avant d'être gaillardement oublié, et non sans raison. Donc voilà, une petite production qui, du fait de son titre et de sa franchise, peut essayer de se faire plus grosse que le bœuf, mais qui, au final, se dégonfle assez vite. C'est pas terrible. Et le problème, c'est que le film suivant que nous allons voir, il a l'air encore plus fauché et encore plus minable. Furia Assassinat, de René Cardona Jr., 1990. C'est parti pour un petit tour au Mexique.
Ojalá se canse pronto porque está muy fuerte y me puede perjudicar todo el equipo. Échame una mano, compa. ¡Ya te fregaste, compadre! ¡Ya cayó! ¡Ya lo tengo bien trabado! ¡Ya cayó el tiburón!
Y'a Caillot Tiburon. Yannick Daron serait tellement fier. Et c'est reparti pour des vacances à la mer, au Mexique cette fois-ci, avec un réalisateur qui, malgré le fait d'avoir 3 films dans ma boîte à requins, a toujours échappé jusqu'à présent à mes tirages au sort. René Cardona Jr. Alors les Cardona au Mexique, c'est une institution. Le père René Cardona était réalisateur de films de Santo. René Cardona Jr., son fils, a poursuivi dans la production plutôt de grand standing, avant de sombrer un peu, et on va le voir avec ce film, au milieu des années 90. Et le flambeau a été repris par René Cardona III, le petit-fils, qui tourne des bandes d'aventure pour enfants et qui continue toujours gaillardement à nous sortir un ou deux films par an. Si vous voulez en savoir plus sur les Cardona, je vous renvoie à l'excellente biographie que John Ada a réalisée sur eux pour Nanarland et que je vous mettrai en lien avec ce podcast. Et donc, René Cardona Jr., donc le deuxième de la lignée, c'est surtout dans les années 70 qu'il a été vraiment prolifique et qu'il a connu son heure de gloire, avec des films de prestige internationaux, avec parfois même des acteurs américains, des montages financiers avec l'Italie. Il nous a donc fait 3 films de requins, plutôt donc dans les années 70, hein, son Mexican Jaws, lui, c'est Tintorera, du sang dans la mer, hein, et puis il y a aussi un film catastrophe, Cyclone, une péloche assez sympathique avec des requins en arrière-plan, sur fond de personnages perdus en mer et de cannibalisme. Bref, des vrais films un peu soignés, bon, pas toujours génial en termes de rythme, on en reparlera quand on tirera Tintorera, ce qu'il est long ce film. Oh, il se passe rien dans ce film. Mais enfin bon, avec suffisamment de budget, suffisamment de prestance pour ressembler quand même à des productions cossues. Puis dans les années 80, ça c'était plus compliqué. Comme pour beaucoup de cinémabis locaux, le cinéma mexicain a un petit peu de mal à suivre les budgets et les moyens du cinéma américain. Donc c'est parti un peu plus en sucette, avec une tendance quand même à rogner un peu sur les budgets. Mais bon, Cardona, en bon amoureux du film d'attaque animale, nous a livré quand même des rigolos La Nuit des Mille Chats, Le Roi des Gorilles, une sous-tarzanerie pour enfants, ou le assez fandard Falco Terror, qui était donc sorti chez nous en VHS, qui s'intitule en fait en VO Palomas Assassina, avec des pigeons tueurs. Mais bon, on était quand même un petit peu dans une ambiance de fin de règne, et dans les années 90, là, c'est devenu vraiment la misère. 4 à 5 films par an, des tournages en vidéo, avec des budgets anémiques, le tout pour les vidéoclubs locaux ou pour les télévisions. Et en cette année 1990, c'est pas moins de 5 films, hein, entre une comédie de vacances ou un polar érotique, ou un thriller sexy à moto, eh bien, il nous offre ce film de requin vraiment indigent. Côté scénar, on est dans le minimalisme. Un groupe de scientifiques part en Basse-Californie chasser le requin, parce que cela permettrait, semble-t-il, de trouver un remède contre les maladies, et notamment le sida. La science avance, la vraisemblance recule. Mais bon, depuis le temps que je vous dis que les requins sont l'avenir de l'humanité...
Está bueno que llegaron. Bienvenidos. Soy Carlos Beltrán, biólogo de este instituto.
Mucho gusto, ya he oído hablar de usted. Soy el doctor Alex Duma, la doctora Bárbara Collins.
Hola.
Mucho gusto.
Y el doctor Marco Conti.
Carlos, mucho gusto.
Mucho gusto, doctor Conti. Síganme, por favor, aquí están las embarcaciones.
Sí, gracias.
Les voy a presentar a mi asistente. ¡Roda! Roda es una buceadora profesional y aparte es la más experta de toda la zona.
Mucho gusto.
El gusto es mío, doctor. Hola, mucho gusto.
Caray, Carlos, qué guapa asistente. Así voy a venir a bucear aquí más a menudo, ¿eh? Hola.
En La Paz tengo una tienda de buceo, así que cuando quiera siempre será bienvenido.
Gracias, Roda.
Bueno, ahí tengo la grabación del VIP, ¿quieren escucharlo?
Claro, solo a eso venimos.
Vamos.
Enfin, scientifique, hein. Heureusement qu'on les attend pas pour nous sauver du coronavirus, hein, parce que entre une pseudo-docteur à brushing et en bikini, et un bellâtre qui mate le cul des filles en bombant les pectoraux, eh ben on sent tout de suite que, plutôt que de la recherche scientifique, on va plutôt être dans les vacances à la mer, au frais de la production. D'où une kyrielle de plans purement illustratifs, de couchers de soleil, de plongées, de promenades en bateau, qui permettent de rallonger l'ensemble à 1h30 réglementaire selon la police, et à 4h30 ressenti selon les manifestants. Alors après une bonne grosse première partie du film à se balader en mer, à faire de la plongée, et bien évidemment à taquiner le requin, il se retrouve confronté à un qui est plus agressif que les autres, et qui va les attaquer de façon plus ou moins directe. Et après la disparition de Barbara, la scientifique, partie nager topless en pleine nuit, les choses deviennent personnelles. Ah, et Caramba, encore raté. Bon, encore un film où clairement il se passe rien, et où l'intrigue famélique est étirée comme un chewing-gum pour pas grand-chose. Nos scientifiques discutent, se dragouillent, passent du bon temps au soleil, le tout entrecoupé de plans sous-marins qui nous permettent d'admirer les grands fonds et de donner envie d'aller partir faire du tourisme au Mexique. Et puis ponctuellement un requin qui passe. Enfin, stock shot de requin tiré d'un documentaire. La facture technique de l'ensemble ne permet pas vraiment de mettre en valeur les images. En effet, pas de pellicule ici, hein. On va tourner en grain vidéo pour la télévision. Ce qui nous donne une image très lisse, très moche, qui a très mal vieilli. Hein. Mais bon, avec l'histoire insipide, ça fait ton sur ton.
Puta madre, mucha gente. Mejor prefiero ir yo solo y a lo más en dos noches se los tengo. Y ya bien muerto de una vez para que no haya ningún problema y... Porque no vaya a ser el diablo.
Yo entiendo su punto de vista, Piteco, pero primero tenemos que ver cómo se desenvuelve en su medio ambiente.
Y después atraparlo vivo para sacarle sangre.
Esa se la saco yo de un arponazo con la sangradera.
No, extraerle sangre con nuestro equipo para analizarla y después dejarlo en libertad para que continúe en el mismo animal la evolución del experimento.
Garacho, esto está muy complicado, pero si ustedes quieren que se los pesque, yo se los pesco. Luego nomás me dicen si lo soltamos o lo matamos y nos lo jambamos como bacalao.
¿A qué horas podemos zarpar?
Pues ya está todo casi listo.
¿A ti no te hace falta nada, Roda?
Los equipos de buceo están cargados, solo hace falta que los chequen y vean si necesitan algo más.
De eso nos encargamos tú y yo. Vamos a ver esos equipos.
C'est vrai quoi, si René Cardone Jr. ça a jamais été Alfonso Cuarón ou Guillermo del Toro, ça fait un peu peine de voir quelqu'un qui a été capable d'emmener John Huston dans le triangle des Bermudes ou Donald Pleasance sur l'Amazon, se retrouver à tourner des péloches au rabais de ce style-là. Le résultat final est un truc un peu cotonneux, moitié documentaire, moitié film de vacances, et franchement je vois vraiment pas ce qu'on peut y trouver à moins de l'avoir vu enfant sur la télé mexicaine. Hein. Ce qui semble être d'ailleurs le principal attrait du revisionnage de ce film que vous trouverez sur YouTube sans trop de difficultés, pour les quelques personnes qui ont mis des commentaires. Ça leur rappelle les mercredis après-midi chez Mémé à l'Hacienda. Pareil pour la musique, hein, pas grand-chose à en dire, elle est assez passe-partout, il y a un assemblage de jolies petites musiques au piano, et puis de petits morceaux un petit peu plus rigolos, dont certains détournent carrément les dents de la mer un peu en loose-dé. Alors c'est signé, semble-t-il, de deux personnes, j'ai pas trop pu retrouver leurs traces, alors il y aurait un certain José Alfredo Jiménez Jr., qui serait le fils d'un célèbre chanteur à qui René Cardone Jr. avait consacré une bio. Et puis, sinon, un autre qui s'appelle Alejandro Sanchez, sur lequel je n'ai absolument rien trouvé, mais vous vous doutez bien qu'avec un nom aussi courant que ça. Donc de là à penser que, en fait, ce sont des musiques de récupération, je ne serais pas étonné outre mesure. Les acteurs cassent pas trois pattes à un canard. Les scènes avec les requins sont tirées de documentaires animaliers, et puis filmées en champ contre champ avec les acteurs qui nagent, donc évidemment ils sont jamais présents ensemble à l'écran. Bref, on a un produit assez médiocre, qui utilise un petit peu toutes les ficelles pour essayer de faire monter la sauce. Pour le reste, voilà, y a pas de version française, y a pas grand intérêt, à moins d'avoir vu ça enfant. Donc voilà, on a un film sur lequel y a pas grand chose à dire, y a pas grand chose à voir. Si vous voulez accompagner une bonne sieste, un après-midi un petit peu pluvieux, vous pouvez vous lancer dans ce film, vous ne serez pas embêté par ce qui se passe derrière votre écran.
Barbara.
Un loco traficante de piel en mi secuestro. ¡Fue horrible! Vámonos, por favor, Alex. Creo que será mejor que nos vayamos. O voy a regresar esa gente.
Mira, ahí está la boya.
Maldito animal, nos siguió.
Queríamos una oportunidad para matarlo, ¿no? Ahí la tenemos. Y no la vamos a desperdiciar.
Les capacités scolographiques de Furia Assassina, hein, je vous rappelle que j'ai fait allemand en deuxième langue, eh bien l'originalité c'est non acquis, il se passe pas grand chose à part des scientifiques qui vont aller chercher un requin, donc voilà, ils chassent le requin, ils tombent sur des trafiquants un moment, voilà, donc ce qui fait aussi que l'histoire au passage, hein, non acquis, hein, on va faire un blow. Les personnages, y a rien à dire, ils jouent pas très très bien, ils ont pas l'air super concernés, à peu près autant que le spectateur. L'ambiance, non acquis non plus, il se passe rien, globalement. c'est quand même bien bien mou. La réalisation, ben je mettrais quand même insuffisamment acquis. Je veux bien que Cardona Junior ça jamais été un foudre de guerre derrière sa caméra, mais là franchement, il filme utilitaire, hein, il filme assez moche. Et puis, ben pour la qualité des requins, je rajouterais tout bêtement un petit insuffisamment acquis. On est là avec un film qui recycle du documentaire animalier. Il y a quelques moments où on a glissé un bout de mannequin ensanglanté entre les mâchoires du squale. Donc il fait un peu son office, mais bon, il n'est pas bien gros, il n'est pas bien impressionnant. Voilà, on est un total de 2. C'est à fuir, parce que je vais rien rajouter là encore. Ouais, ce film, c'est un peu comme une soirée diapo chez les cousins qui vous présentent leurs dernières vacances au Mexique. C'est joli, on est content pour eux, de là à s'y intéresser. Bon allez, c'est pas grave, la prochaine fois on va tirer des bons films, j'en suis sûr, on va voir Arkansas Women's Prison Massacre, un film de 2015 de Jim Mirsky. Vous excuserez mon enthousiasme et ma prononciation très approximative. Bon, non, mais le deuxième ça va être très très bien. Forcément, je peux pas quand même toujours tomber... Shark Exorcist. 2015, Donald Farmer. Non mais là, on n'est plus dans les fonds de tiroir, là, on est sous le tiroir, c'est plus possible. Bon, allez, je vous renvoie à la liste Sens Critique de Quentin ou à la liste Letterboxd XD de Fabien pour retrouver un petit peu notre classement. Sinon, vite fait, une petite recommandation rapide, puisqu'il ne me reste quand même plus beaucoup de temps étant donné que j'ai un petit peu débordé. Cordonnier Fixe, je vous en avais déjà parlé une fois précédente. Ils viennent de sortir une vidéo YouTube très intéressante sur comment Spielberg réussit à rendre son requin crédible malgré tous ses problèmes mécaniques par des trucs de mise en scène. Vraiment une analyse assez poussée. Je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil. Voilà. Où est-ce qu'on peut encore se retrouver? Eh bien, comme d'habitude, les podcasts Nanarland, et puis sur Twitter, @ultimatrico. On se retrouve d'ici 15 jours, 3 semaines, tout en vous souhaitant évidemment la meilleure santé possible pour vous et votre famille. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner.